Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 8e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec saint Thomas d'Aquin et la question « Le monde a-t-il un but ? Quelle est la finalité de toute chose ? Que vise la Providence ? Quel est le but de ce que saint Thomas appelle le gouvernement divin ?» Nous pourrions penser que Dieu a créé le monde seulement pour le bien du monde. Mais alors, le monde ne serait plus qu'une totalité close sur elle-même, et le mal, le drame qui s'y trouve, deviendrait complètement absurde. Faut-il alors dire que le monde a été créé par Dieu et pour Dieu, voire à la plus grande gloire de Dieu ? Mais quel serait le sens de ce « pour Dieu » qui n'a besoin de rien et auquel on ne peut rien ajouter ? Attention, nous allons lire un texte difficile mais décisif, où Thomas d'Aquin pose la question du sens et nous montre que cette question du sens ne peut déboucher que sur un mystère, parce que le monde est appelé à ce qui est plus grand que le monde. Écoutons notre grand docteur de l'Église.
Dans quel but Dieu gouverne-t-il le monde ? Il semble que la cause finale du gouvernement du monde ne soit pas une réalité extérieure au monde. En effet, le but du gouvernement est celui auquel il conduit la chose gouvernée. Mais ce but ne peut être qu'un bien inhérent à la chose elle-même. C'est ainsi que le malade est amené à la santé, laquelle est un bien existant en lui. La fin du gouvernement des êtres n'est donc pas un bien extérieur à eux, mais un bien qui se trouve en eux-mêmes. Deuxièmement, selon Aristote, la fin d'un être est ou bien son action, son opération, ou bien l'œuvre qu'il produit. Mais il ne peut y avoir d'œuvre produite qui soit en dehors de l'ensemble de l'univers. Quant à l'opération, elle a pour sujet celui qui agit. Rien d'extérieur au monde ne peut donc être la fin du gouvernement des choses. Enfin, le bien de la multitude réside dans l'ordre et dans la paix, qui est la tranquillité de l'ordre, selon saint Augustin. Mais le monde consiste en une multitude de choses. La fin du gouvernement du monde sera donc un ordre pacifique qui existe dans les choses elles-mêmes. Elle ne sera donc pas quelque chose d'extérieur au monde. En sens contraire. Il est écrit au livre des Proverbes, « Le Seigneur a tout fait en vue de lui-même. Or, Dieu est extérieur à tout l'ordre de l'univers. La fin des choses est donc un bien extérieur à l'univers. » Je réponds en disant que, puisque la fin doit répondre au principe, il ne peut se faire, une fois connu le principe des choses, que leur fin soit ignorée. Donc, puisque le principe des choses qui est Dieu est extérieur à tout l'ensemble de l'univers, ainsi qu'on l'a dit, il en résulte nécessairement que la fin des choses est aussi un bien extrinsèque, extérieur à tout l'ensemble de l'univers. C'est logique. Il est manifeste en effet que le bien a valeur de fin, d'où il suit que la fin particulière d'une chose est un bien particulier, tandis que la fin générale de tous les êtres est un bien universel. Or, le bien universel, c'est ce qui est bon par soi et par son essence. C'est ce qui, en d'autres termes, réalise l'essence même de la bonté. Le bien particulier, au contraire, n'est bon que par participation. Or, il est évident que dans tout l'ensemble des créatures, aucun être n'est bon que par participation. Dès lors, le bien qui est la fin de tout l'univers doit nécessairement être extérieur à tout l'univers. Pour répondre à la première objection, il faut dire que nous acquérons un bien de multiples manières. Tantôt il s'agit d'une forme qui se réalise en nous, comme la santé ou la science. Tantôt il s'agit d'une œuvre accomplie par nous. Ainsi, l'architecte obtient son but en construisant une maison. Tantôt, enfin, il s'agit d'un bien que nous acquérons ou possédons. Ainsi, celui qui achète un champ parvient à ses fins en en prenant possession. Rien n'empêche donc que la fin à laquelle est conduit l'univers soit un bien extérieur comme ce champ. Deuxièmement, Aristote parle des fins poursuivies dans le domaine des arts. Certains arts ont pour but l'opération elle-même. La fin du sitariste est de jouer de la sitare. D'autres arts ont pour fin une œuvre réalisée. La fin recherchée par le bâtisseur, ce n'est pas l'acte de bâtir, c'est la maison. Mais il arrive encore qu'une réalité extrinsèque soit une fin, à titre non seulement d'ouvrage réalisé, mais encore comme possédé ou même encore représenté. Ainsi, nous pouvons dire qu'Hercule est la fin de l'image que l'on fait pour le représenter. On peut donc dire qu'un bien extérieur à tout l'univers est la fin du gouvernement de l'univers, en tant précisément que ce bien est possédé et représenté, car toute chose tend à participer du bien et à s'assimiler à lui selon son pouvoir. Certes, il y a une fin de l'univers qui lui est immanente, c'est l'ordre de ce même univers, mais ce bien n'est pas la fin ultime, car il est ordonné à un bien extrinsèque comme à sa fin suprême. Ainsi, l'ordre de l'armée est ordonné au chef, selon la remarque d'Aristote.
Fabrice Hadjadj, rien n'empêche que la fin à laquelle est conduit l'univers soit un bien extérieur. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors, on est à la toute fin de la première partie de la Somme de théologie, hein, ce qu'on appelle le traité du gouvernement divin, qui est un traité qui a longtemps été négligé. On s'est intéressé au traité du Dieu un, puis au traité de la Trinité, enfin, la création nous intéresse. Et d'ailleurs, on insiste beaucoup sur Dieu comme créateur, comme sauveur, mais Dieu est Seigneur, c'est-à-dire qu'il gouverne le monde. Et en plus, il gouverne le monde à travers ses créatures, en déléguant aussi son pouvoir, donc à la fois par lui-même, mais aussi en voulant faire collaborer ses créatures à sa volonté. Donc, on est dans cette dimension qui va concerner ce qu'on appelle la providence divine, bien sûr, mais surtout la modalité dont Dieu gouverne le monde. Et là, la question qui se pose, c'est quelle est la finalité du monde ? Est-ce que le monde a sa fin en lui-même ? Alors, vous voyez, il y a une sorte d'ambivalence dans cette question, parce que à la fois Dieu crée toutes choses et il est leur principe, mais on dira aussi que Dieu crée les choses non pas pour lui simplement, mais pour elle-même, parce qu'il n'en a pas besoin. Et là, en même temps, puisque c'est Dieu qui les crée, ça veut dire que la finalité aussi, c'est en vue de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que vous avez posé comme question au départ. Est-ce que c'est pour Dieu ? Est-ce que c'est pas pour Dieu ? Est-ce que... Et puis, il y a une deuxième chose qui est très intéressante, c'est surtout que ce texte marque, alors même qu'il conclut en citant Aristote, mais marque quand même un écart avec toute une tradition, on pourrait dire, grecque, qui veut que, d'une certaine façon, les dieux ne sont pas hors du cosmos, ils sont dans le cosmos. Ils peuvent être éventuellement premiers moteurs du cosmos, mais d'une certaine façon, on ne peut pas dire qu'ils sont absolument hors. Ou alors, c'est une analyse d'Aristote, qu'on ferait d'Aristote, mais qui serait déjà une relecture chrétienne. Je ne dis pas qu'Aristote interdise cela, mais malgré tout, lorsqu'il parle du premier moteur immobile, son propos n'est pas d'abord de penser une transcendance divine. Donc, à l'intérieur, on est dans un monde où la finalité du monde, c'est le cosmos. Et donc, où on conçoit les êtres comme faisant partie d'un tout, et l'enjeu ultime, c'est l'ordre ou le bien de ce tout. Mais ça signifie à ce moment-là que les êtres ne sont que des parties, peut-être des rouages d'un grand système. Or là, Thomas d'Aquin fait nettement un pas de côté. Enfin, comme Moïse fait un pas de côté alors qu'il dirige son troupeau, il se retrouve face au buisson ardent. Et il dit non, la finalité du monde n'est pas en lui-même. Ça signifie qu'on n'est pas dans une logique qu'on pourrait appeler totalitaire. Le monde n'est pas tout. Ou plutôt, le tout n'est pas tout. Le tout n'est pas tout. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout. Et même le monde, donc le monde est un ensemble, une multitude, mais ouverte au-delà de de la logique de la totalité, vous voyez, où les parties seraient simplement en vue du tout. Non, les créatures ne sont pas simplement en vue du tout.
Fabrice Hadjadj, vous avez commencé en distinguant la création de la domination du côté seigneur, Dieu est créateur, mais il est aussi seigneur. Mais est-ce que déjà, dans la création, il n'y a pas l'idée de gouvernement? Puisque quand on crée en vue d'une fin, donc on donne un ordre, donc évidemment on gouverne.
Oui, ça on peut le dire, et la tendance même de toute une sorte de théologie, c'est de tout ramener à l'acte de création. Mais Thomas d'Aquin distingue bien la création, la conservation du monde et le gouvernement. Et ça, c'est très important, parce qu'il insiste sur le fait qu'on utilise une diversité de mots pour désigner les actes divins, et que le mot de créateur dit l'apparition d'abord dans l'être. Mais après, d'une certaine façon, il y a le fait que cet être étant donné aux créatures, les créatures l'exercent d'elles-mêmes. Et là, c'est l'instauration, en fait, de la créature et de la diversité des créatures. Et cet acte d'instauration est vraiment très, très important. Parce que sinon, on pourrait être dans cette logique un peu où le gouvernement divin serait vu à partir d'une sorte de création continuée, mais où l'être ne serait en quelque sorte que prêté à la créature, qu'il n'y aurait pas une vraie consistance et un vrai exercice de l'être par la créature elle-même. Donc non, la création comme don de l'être, voilà. Il y a après cet exercice par les créatures à l'intérieur, justement, de cet acte qui est le gouvernement divin. Et c'est pour ça qu'il convient quand même de distinguer création et gouvernement, le Dieu comme créateur et Dieu comme seigneur, même si... En Dieu, bien sûr, c'est un seul et même acte, mais relativement à nous, il faut distinguer ces actes.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, le monde a-t-il un but ? Fabrice Hadjadj, nous voyons ici que, dans le texte de Thomas d'Aquin, il montre que Dieu fait collaborer les créatures à l'ordre, disons, à l'ordre de la création. Et il semblerait même que l'opération des créatures, ce que dit Thomas ici, c'est que l'opération des créatures même ne pourrait se comprendre qu'à partir de cette idée de gouvernement divin. Et donc quand Dieu donne l'opération à ses créatures, en fait, il agit à travers elles. C'est son opération qui se poursuit dans ses créatures, et ses créatures, en agissant, agissent en Dieu et pour Dieu. Comme si il y avait un gouvernement intérieur des créatures par Dieu.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous êtes en train de montrer un problème, c'est-à-dire que si on dit que c'est extérieur, que veut dire ce mot « bien extérieur à l'univers » ? Extrinsèque, ça veut dire ici que ça n'est pas quelque chose de créé. Mais si ça n'est pas quelque chose de créé, c'est ce qui est transcendant, et donc c'est à la fois ce qui est le plus extérieur et le plus intérieur. Ça, c'est certain. Alors, relativement à ce que vous dites, il y a ce passage qui est de dire... En fait, peut-être le passage le plus décisif, c'est lorsqu'il parle d'Hercule. C'est très curieux, d'ailleurs. Hein. Hercule est la finalité de l'image que l'on fait pour le représenter. Et après, il dit, on peut donc dire qu'un bien extérieur à tout l'univers est la fin du gouvernement de tout l'univers, entend précisément que ce bien est possédé et représenté, car toute chose tend à participer du bien et à s'assimiler à lui selon son pouvoir. Ça, c'est magnifique. Cela signifie que c'est l'attrait de Dieu qui est à la source de l'opération de toutes les créatures, qui cherchent chacune à lui ressembler selon sa nature, la nature propre de chaque créature, la poule en gloussant, en pondant, l'oiseau en volant, en chantant, si c'est un rossignol par exemple, et chaque type d'être, le rosier en donnant sa rose, l'homme en connaissant, en aimant, en conversant autour d'une table, en partageant le pain et le vin avec ses amis et en cherchant à faire le bien autour de lui. Chacun imite Dieu à sa manière. Et donc, en réalité, c'est ça qui est très intéressant ici, c'est qu'effectivement, ce que vous disiez, l'opération de chaque créature, c'est de ressembler à Dieu. Et donc, ce qui est magnifique, c'est que toute créature, en cherchant à être elle-même. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une sorte de concurrence entre pour Dieu et pour soi ici. En cherchant à être elle-même, en fait, ce qu'elle cherche, c'est une ressemblance divine. Et en cherchant sa propre fin, c'est d'abord parce qu'elle est attirée par quelque chose qui la dépasse. Et là, on est dans quelque chose qui est vraiment, pour ainsi dire, stupéfiant, parce que ça signifie aussi que le but du monde n'est pas quelque chose de créé, donc qui est au-delà du monde. Donc, d'une certaine façon, la finalité du monde est aussi incompréhensible, aussi transcendante, aussi insondable que Dieu. Mais aussi le fait que lorsqu'une créature atteint sa perfection, puisqu'elle participe de ce Dieu incompréhensible, elle est aussi elle-même un mystère. Et que le rossignol soit pleinement rossignol, pourquoi le rossignol? Pourquoi cette chose? Pourquoi la gratuité de cette présence dans le monde? Et c'est là où on voit bien que le rossignol n'est pas qu'un rouage à l'intérieur du monde. Parce que vous voyez, si vous voyez la chose comme une sorte de système, où chacun n'est qu'une partie à l'intérieur du tout, vous devez dire, en fait, il faut qu'il y ait des rossignols, parce que, voilà, comme le dit Aristote par ailleurs, mais on peut en faire une interprétation vraiment qui est presque anti-biblique, enfin, dans une logique de totalité, la nature ne fait rien en vain. Donc chaque chose est à sa place, il n'y a absolument aucune contingence, et puis ça pourrait arriver jusqu'à la logique de Spinoza, où tout est un grand système, où chaque chose n'est qu'une modification de la substance divine, et qu'il n'y a qu'un grand tout, et nous sommes que des parties de ce tout. Et donc il y a des rossignols parce qu'ils remplissent une fonction à l'intérieur de ce tout. Et si le rossignol disparaît, c'est parce qu'on n'a plus de fonction, on peut le substituer à autre chose, parce que vous voyez, si les choses n'ont de valeur que par rapport à leur fonction, il suffit qu'on trouve autre chose auquel on pourrait substituer et qui accomplit la même fonction, ça va. Bon, c'est la vision fonctionnaliste comme ça, ou du rouage, on peut changer les parties, on peut, voilà. Et là, ce que dit Thomas d'Aquin, non, c'est que, bien sûr que les choses ici sont fugitives, elles peuvent apparaître, elles peuvent disparaître, mais ce n'est pas comme des rouages d'un grand tout. Elles sont chacune marquées par une forme de contingence, de gratuité. Elles imitent, justement, on pourrait dire, l'événement et le mystère infini de Dieu. Et ça c'est quelque chose qui fait qu'on ne peut pas simplement regarder les choses comme des fonctions, comme des rouages, mais aussi que chaque chose, quand elle se réalise elle-même, c'est cette expérience-là. Voilà un chêne. Pourquoi un chêne à la fin? C'est magnifique qu'il y ait un chêne. Vous ne pouvez pas dire simplement il est là pour assurer la survie, il n'est qu'une fonction dans l'univers, il est là par ses glands, nourrir les cochons. Bien sûr qu'il fait tout ça. Mais la première chose qu'il fait, c'est ressembler de manière finie à Dieu. Et donc à quelque chose qui est au-delà de sa participation au grand tout, de sa contribution à l'ordre intérieur du monde. Il y a cette contribution, il y a l'écosystème. Mais en même temps, derrière l'écosystème, il y a la gratuité de l'apparition de chaque être. Voilà, je pense que là, on est face à une sorte de vertige, mais qui montre bien qu'on est au-delà d'une simple pensée du cosmos comme étant l'absolu.
Et si la fin est l'attrait et que cette fin est la bonté divine, d'une certaine manière, ça veut dire que pour l'agir de l'homme, la fin de sa volonté est la même que la fin de la volonté de Dieu. C'est quand même...
Oui, bien sûr, ça signifie aussi qu'on n'est plus du tout dans une logique concurrentielle. Parce qu'il n'est pas en train de dire la fin de toute chose, c'est hors du monde. Il dit bien que c'est la fin des créatures qui est Dieu, donc c'est bien ce qu'il y a de plus intérieur aux créatures qui est au-delà d'elles-mêmes. Et donc, elles n'atteignent cet au-delà d'elles-mêmes aussi qu'en devenant elles-mêmes. Et c'est pour cela que c'est là où on touche à un paradoxe. Vous dites, ce texte est décisif, ce texte est d'une grande profondeur, il empêche toute forme de totalitarisme, il nous empêche de tomber dans une sorte d'écologisme où les choses seraient juste là comme des pièces à l'intérieur d'un écosystème à l'équilibre, où non, si on défend la biodiversité, il n'y a pas de raison uniquement naturelle au nom du grand tout de défendre la biodiversité, parce que la nature a pu balayer des espèces, les faire disparaître, en faire pour laisser d'autres apparaître, etc. Mais y a autre chose dans la vision de la création qui est de dire, mais non, pourquoi est-ce qu'on regrette le tyrannosaure éventuellement contre un humain? Parce qu'à un moment, le tyrannosaure manifestait quelque chose, voilà, de gratuitement, voilà, de la gloire de Dieu, de son mystère, par sa présence gratuite, par une apparition différente des autres, spécifique, différente des autres. Et alors, ce que vous disiez ici, c'est que justement, on sort aussi de cette logique concurrentielle où on dit, il y a ma volonté, il y a la volonté de Dieu. Il y a un point où, effectivement, ma volonté est d'autant plus ma volonté qu'elle est en accord avec la volonté divine. C'est pour ça que, quand on dit que ta volonté soit faite, c'est aussi dire, mais en fait, que j'ai de la volonté moi-même, et que ma volonté soit une vraie volonté, une bonne volonté. C'est pas dire il y a eu des manières de dire qui ne sont pas des manières, je dirais, métaphysiques ou théologiques, qui seraient de dire, eh bien, il faut que je nie ma propre volonté pour me soumettre à la volonté divine. Ou alors, le péché, c'est de s'affirmer comme une volonté face à la volonté divine. Mais Dieu est la cause de ma volonté, et ma volonté n'est volonté que lorsqu'elle ressemble à Dieu, quand elle participe d'autant plus à la volonté de Dieu. C'est ça ce qui est dit ici. Dès lors, le mal n'est pas simplement une volonté qui se dresse face à Dieu, mais une sorte d'effondrement de la volonté. Et on retrouve là cette sorte de positivité de la pensée de Thomas d'Aquin. Cette affirmation vraiment extraordinaire, cette générosité où il n'y a pas de concurrence, où il y a une bonté de la création. Mais cette bonté de la création, c'est justement que la création vise toujours un au-delà d'elle-même et qu'elle se réalise en visant cet au-delà d'elle-même. Et elle est d'autant plus elle-même qu'elle vise cet au-delà.
Alors, Fabrice Adjadj, ce que vous dites est déjà vertigineux par la grandeur, enfin ce que dit Thomas d'Aquin est déjà vertigineux par la grandeur que ça confère à l'ensemble de la création. Mais c'est aussi vertigineux du point de vue du mal, parce que dans un système, en effet, où tout est clos, en fait, il n'y a plus vraiment de place pour le mal, parce que tout peut se compenser, tout peut se justifier. Alors qu'ici, tout ce qui, d'une certaine manière, est mal, vient altérer ou vient s'opposer au plan et à la volonté divine. Et donc,
Oui, et en même temps, le monde peut être atteint, peut être blessé, mais comme il n'a pas sa finalité justement simplement en lui-même, cette blessure peut se transformer en le lieu d'aller vers l'au-delà. Donc c'est là où il y a quelque chose, parce que la faille à l'intérieur, la blessure elle-même, peut devenir comme la croix, le lieu où on se tourne vers ce qui est surnaturel. Et c'est pour ça que, justement, le mal, c'est pas la fin de tout. Même le fait qu'il y ait un enfer, par exemple, et qu'il y ait des personnes damnées, n'est pas la fin de tout. Certains pourraient dire, bah voilà, il y a une zone. Et puis, il y a autre chose. Moi, je pense que ce que dit Thomas, je l'interprétais dans un autre sens. C'est-à-dire que vouloir penser que l'enjeu, c'est simplement de faire un monde parfait, où tout s'ajuste, où tout est en place, où tout, le projet totalitaire, en fait. Eh bien, c'est ça, le mal extrême. Tout d'un coup, penser que la question du bien, c'est une question complètement immanente, que ce bien n'est pas ouverture à l'infini, n'est pas ouverture à ce qui nous dépasse. Et vouloir tout réaliser dans un monde clos, fini, parfait, tout est ajusté, comme une belle machine. Et tout d'un coup, on se rend compte que les projets totalitaires de faire un bien complètement immanent, vous voyez, parce que c'est-à-dire que les bonnes intentions, apparemment, hein, de faire le bien par ses propres forces, de faire le bien de telle sorte que on en reste, comme le projet transhumaniste, d'une certaine façon, à ce bien, ou même le projet animaliste, de régression dans l'ordre de la nature, que peu importe, en fait, quel que soit le totalitarisme, eh bien, ce projet de bonté, où il s'agit de la bonté simplement du tout, dans le tout, mais du tout lui-même, pour le tout, eh bien, cela même est quelque chose de mauvais. Et donc, on voit bien qu'on est dans une logique qui interdit toute forme de clôture totalitaire. Si on lit ça, on ne peut pas dire simplement bah, « notre visée, c'est simplement de faire l'ordre du monde » ou de faire le... puisque cet ordre lui-même est ordonné à l'ordonnateur, qui est Dieu. On ne peut pas dire « il suffit que chaque créature soit à sa place et que tout soit mis en ordre, etc. » ou que on fait le monde meilleur. Mais non. En fait, le monde ne se réalise lui-même qu'en étant tourné vers un au-delà de lui-même. Et c'est ça qui est formidable dans cette affirmation, qui déchire toute forme de totalité.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Saint Thomas d'Aquin, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les vendredis à 14h et les samedis à 10h30. Et bien sûr, en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.